Le désir, pour moi, il s'est construit. Ça concerne tout le monde.
D'autres constellations qu'on va aller tisser. Une espèce de lumière.
Violette a des sortes de fulgurances où elle n'hésite pas à exprimer ses émotions. Le festival d'amour. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Noémie Schust à l'occasion de la publication de sa bande dessinée L'Avant-Match chez Studio Fidèle. Le festival d'amour. C'est parti. Cette année, nous allons là où ça vibre, là où ça frissonne, où les ventres se tendent et les cœurs se bouleversent. Parce qu'il est temps de parler de ce que l'on ressent, de chahuter nos âmes et nos corps, le temps de s'y rencontrer. Pour cette première soirée, je te reçois, Noémie, toi dont la bande dessinée L'Avant-Match a ajouté un battement à mon cœur. J'ai reconnu cette sensation merveilleuse de lire ce que l'on connaît sans forcément savoir l'identifier. Cette amitié amoureuse, cet amour amical, dans un sens ou dans l'autre, c'est sans doute juste là que se situe ce qu'il y aurait de plus révolutionnaire à notre époque, nos amitiés. Quelle que soit leur définition d'ailleurs. Bonsoir Noémie.
Waouh, tu commences fort. Ça fait plaisir d'entendre ça un mercredi soir.
Quand j'ai lu en fait ta bande dessinée, il y a eu quelque chose comme ça d'un battement supplémentaire comme je disais, parce que c'était pour moi la première fois en fait je lisais exactement ce que j'avais ressenti en fait face à des amitiés qui n'étaient pas exactement au même endroit que d'habitude, mais qui en même temps ne prenaient pas la place d'autre chose non plus. Et de pouvoir la lire comme ça, ça permet de se dire « Ok, je suis déjà pas toute seule, ça existe. » Et en fait, il faut plus on va en parler, plus ça va exister encore plus.
Bah, ça me fait trop plaisir que t'aies vu justement ce... Bah, que c'est, en fait, c'est le sujet de la BD, cette frontière entre l'amour, l'amitié qui est ambiguë, en fait. Et que bah, moi aussi, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une BD qui parle d'ambiguïté. Parce que j'aime bien ce côté, c'est à la fois, c'est entre le flou, le net, on sait pas trop. Et moi, je sais que dans mes relations amicales, parfois, j'arrivais pas à voir la différence avec mes relations amoureuses. Enfin, parfois, j'étais vraiment perdue. Et je disais d'ailleurs à tout le monde, non, mais en fait, moi, je crois que je suis juste une amireuse perpétuelle, quoi. Et aussi, j'entendais beaucoup de gens quand j'étais plus jeune qui me parlaient tout le temps de cette fameuse friend zone. Je déteste ce terme parce que c'est comme si on est juste amis, comme si ça suffisait pas. Et je trouvais ça un peu dommage parce que parfois moi, dans mes relations amicales, j'ai vécu des choses tellement plus intenses que romantiquement. Après, ça dépend comment on définit tout ça. Mais du coup, oui, c'était un peu le sujet justement de la BD. Donc je suis contente que t'aies trouvé du sens dans ça.
Ah, ça m'a claqué dans l'œil, comme ça. Mais ce qui est d'autant plus chouette, c'est que c'est subtil. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver dans cette relation entre deux personnages, qu'on va mettre un petit peu de temps à appréhender, et donc tout va se jouer sur un après-midi. Elles sont ensemble, à différents endroits, des choses qui vont être du concret. On a l'impression qu'elles sont dans une chambre, puis dans une autre, elles sont dehors. Mais les transitions sont extrêmement floues, comme si, en fait, peut-être parfois, on faisait des sauts dans leurs rêves, dans ce qu'elles imaginent alors qu'elles ont les yeux fermés. Quand elles repensent à quelque chose peut-être qui s'est passé dans le passé, des flashbacks, des choses comme ça. Ces jeux du temps qui passent, je trouve qu'il est d'autant plus important, en fait, que tout ce dont on a parlé juste avant, de se dire qu'en fait, pour que ce genre de relation existe, il faut aussi les laisser le temps, en fait, de s'installer. Et c'est peut-être ce qui fait le petit charme des amitiés aussi, se dire, il suffit parfois de ne rien faire pour que tout se construise autour de nous, en fait.
Bah exactement, et aussi, bah là d'ailleurs, comme tu dis, ça se passe le temps d'une après-midi, l'histoire. Au tout début, moi, dans mon projet initial, je voulais raconter une BD avec une temporalité beaucoup plus longue, qui s'étale sur plusieurs, je sais pas, une période de plusieurs semaines. Et avant que je me rende compte que, non, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de resserrer le temps comme ça, et de me focaliser sur des micro-détails qui sont en apparence très insignifiants, et de les mettre en valeur. Donc il y avait un truc presque masochiste, parfois, de passer une journée à dessiner une seconde de vie. Mais c'est ça que je trouvais fascinant, c'est que parfois, dans une seconde de vie, un micro-geste qui décale, qui dévie, et c'est là qu'il peut se passer quelque chose de très fort, et surtout d'un point de vue relationnel. Parfois, il suffit juste d'un frôlement de main pour que, ah, d'un seul coup, la relation devienne autre chose. Et du coup, je voulais beaucoup jouer sur ça, et c'était vraiment aussi très difficile de rester subtil. Comme justement, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux, je voulais pas tomber dans le fait que, bah, est-ce qu'elles vont s'embrasser, et à un moment, j'avais presque hésité à ce qu'on voit, en fait, une scène où elles s'embrassent, peut-être. Mais je me suis dit, non, je crois que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la tension qu'il y a dans ce moment avant, ça pourrait se passer, mais j'aime bien l'idée que on ne sait pas, en tant que lecteur, est-ce qu'elles sont ensemble, est-ce qu'elles vont être ensemble. Et j'aimais bien, en fait, ce côté-là. Et effectivement, comme c'est qu'une après-midi, en fait, on ne peut que imaginer tout ce qui va se passer après et dans d'autres temporalités. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi.
Mmh. Mais d'autant que, donc, elles sont deux, c'est Corky et Violette. Deux personnages extrêmement différents qui n'ont pas du tout les mêmes univers, les mêmes façons d'être au monde, les mêmes chambres, les mêmes référents et surtout les mêmes émotions, parce qu'on est face à un Corky qui est plutôt tendu, plutôt anxieuse et en même temps qui essaye de le cacher pour pas non plus envahir l'espace, même si elle va en parler, puisque le lendemain elle a un match important d'escrime, et Violette qui elle a quelque chose de très vaporeux, très joueur, qui va essayer comme ça de piquer. En fait, c'est plutôt Violette, au final, qui pique dans la relation, qui essaye, ouais, de par le jeu de mots, en fait, d'aller chercher, en fait, Corky, alors que c'est elle qui fait de l'escrime. On oui. pourrait s'attendre à l'inverse, pour le coup.
Bah, c'est vrai qu'au début, j'ai construit les deux personnalités en essayant de les opposer. Donc, il y avait d'un côté Corky, que j'imaginais très compétitive. Elle, bah, du coup, elle fait de l'escrime. Donc, elle a ce truc de compète, et elle est tout le temps dans le mouvement, elle touche tout du bout de ses doigts, elle est dans un truc très physique. Alors que Violette, à l'inverse, je voulais qu'elle soit beaucoup plus contenue dans ses mouvements, dans son corps. Mais par contre, dans sa tête, vu qu'on voit beaucoup de digressions mentales, on assiste à toutes ses pensées, en fait, je voulais que le mouvement, il soit dans sa tête, chez elle, et dans ses paroles, dans ses discours, qui ont souvent un côté presque, ça passe du coq à l'âne, parce qu'elle va très vite dans sa tête. Et au final, les deux, elles se ressemblent à ce niveau-là. Et j'aimais bien le fait que, au fur et à mesure, même leurs personnalités, même si elles sont différentes au départ, elles finissent presque par fusionner parfois, et qu'il y a des tics de langage que, par exemple, bah, Violette aurait pu avoir. Bah, Corky va finir par les adopter quelques pages après. Un peu comme quand on est amis et que des fois on finit par employer les mêmes tournures de phrases que ses amis par imitation. Et je trouvais ça intéressant. Et du coup, là aussi, je voulais un peu, bah, c'est aussi ça l'ambiguïté, en fait, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a une scène, à un moment, où elles disent « on sait plus qui mange qui ». Je trouvais ça intéressant. Mm. Et aussi, qui mange qui, il y a aussi quelque chose de l'ordre du désir, un truc.
Oui, la place du jeu comme jouet, enfin vraiment dans la bande dessinée, est très présente, puisque, en effet, Violette a l'air d'avoir quand même encore une chambre, alors qu'on attribuerait plus à des enfants, peut-être, d'avoir plein de petites choses un peu partout. Elle collectionne, elle aime bien mettre, oui, quelque chose d'enfantin, en fait, dans son univers. Alors qu'on raccroche à l'enfance, évidemment, du haut de notre grand âge adulte, mais elles vont, en fait, passer du temps à prendre le temps de jouer. Et donc, quand tu parles de se manger l'une l'autre, en fait, c'est quand elles font le truc de se prendre les mains et de se mordre.
Ouais,
et
en fait,
voilà, le sandwich de doigts, voilà, ouais. C'est ça. Et qu'à un moment donné, si on mord, on sait plus à qui appartiennent quels doigts. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et comme tu le disais, qui font un ping-pong de, c'est ton corps, c'est mon corps, c'est notre jeu, c'est, on n'est pas là, on est là. Et toutes ces choses-là, de page en page, en fait, elles font que le trouble arrive chez les lectrices. Et qu'on sait pas trop, en fait, jamais on ne saura ce qui se passe, comme tu disais, quoi.
Bah, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment la BD. En même temps, c'est aussi un temps très court. Comme c'est que le temps d'une après-midi, en une après-midi, on peut pas assister à toute une relation. Forcément, c'est que des moments choisis. Et souvent, dans tous les films romantiques, en général, ils se concentrent sur la période de la rencontre amoureuse, le côté passionnel, et rarement sur ce qui se passe après, d'ailleurs. Et bah moi, ce qui m'intéressait, c'était même pas tant là, elles sont déjà amies, on sait qu'elles se connaissent déjà, donc c'est pas deux inconnues qui se découvrent comme ça, et en fait je m'en fiche de ça, et ce que je voulais montrer, c'était même plus quelque chose de l'ordre de personnes qui se connaissent Et du coup, quelle est la complicité qu'il y a entre elles, du fait qu'elles se connaissent depuis longtemps. Et en tant que lecteur, c'était important, je pense, qu'on fasse partie de leur complicité. Il y a même un moment où Violette, elle fait un clin d'œil au lecteur-lectrice, et justement, c'était une manière de dire, bah, venez jouer avec nous. J'avais presque envie qu'on ait le sentiment de passer une après-midi avec ses amis, et d'être avec elle, et limite qu'on ait envie de faire des blagues avec elle. Hey, moi, je suis là aussi. C'était mon intention.
Mais cela, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des personnages, de ton écriture, de ce fait, de ta narration. Mais il faut pas oublier qu'en effet, c'est une bande dessinée, donc on est aussi sur un dessin, et j'ai même envie de dire de plusieurs façons de dessiner. Puisque autant, en fait, tes deux personnages sont mouvants et vont vraiment aller emprunter des façons de parler, de se mouvoir à différents endroits, en fait, à différents caractères. En fait, ton dessin, il va aussi évoluer de la même manière où on va vraiment récupérer, en fait, du texte par ce dessin. Enfin, tu vas mettre beaucoup de signifiants dans l'accompagnement, en fait, de tes personnages, même si ça pourrait être un peu indélicat de dire de l'accompagnement, parce que ton dessin est exactement suffisant et autosuffisant, mais il y a vraiment un ping-pong, en fait, entre les deux. Il me semble l'avoir lu que tu avais utilisé différentes techniques de dessin et que c'était vraiment pluriel, là, pour le coup,
alors moi, j'ai toujours fait comme ça. En fait, j'hybride beaucoup de techniques. Je vois souvent le traitement, l'outil que je dessine, pour moi, il va changer aussi comment on interprète l'image. Donc, pour moi, un trait au crayon, il n'a pas le même impact qu'un trait à l'encre, un trait au pinceau. Ça dit autre chose. Et aussi, le dessin, c'est une écriture. Et c'est ça qui me fascine dans la bande dessinée. Et comme en plus, il y a du texte, il y a une sorte de double et multiple écriture qui... En fait, c'est aussi une relation de complicité. Pour moi, la BD, le rapport texte-image, ça, je trouve ça très intéressant. Et la différence de traitement graphique, je la vois vraiment comme des sortes de figures de style en littérature. Une manière de, ouais, d'exprimer des sortes de métaphores à travers juste des trucs visuels. Et en général, ouais, il y a aussi quelque chose de très... impulsif dans ma manière de choisir mes techniques, c'est-à-dire que j'étale tout sur mon bureau et j'aime ce côté, bah, justement très enfantin de ah, oh, là il y a des feutres, ah ouais, j'ai envie de mettre du rouge, et ah, oh, bah là il y a du reste de maquillage, bah vas-y je mets du maquillage, et ah, oh, vas-y je déchire le papier. Et j'aime ce côté très spontané et de juste écouter mes intuitions, en fait, tout simplement. Et aussi, oui, parce que là, il n'y a pas beaucoup de texte dans cette bande dessinée, donc ça passe énormément par le visuel. Il y a même des scènes qui sont presque silencieuses, en fait. Et donc, c'est important que les techniques, elles accompagnent l'histoire.
Oui, on va avoir certaines pages qui vont vraiment, en fait, être plus carrées, plus cadrées, où on va reconnaître, en fait, le principe un petit peu des cases, etc. Puis tu tournes la page, et là, il y a comme un grand vent, en fait, qui vient tout mélanger, et en plus... ça va évidemment venir matcher, en fait, ce moment où elles se perdent dans, on ne sait pas, un autre endroit, des rêveries, où elles sont dans la nature, où elles sont complètement, en fait, dans des espaces différents. Et donc, ce jeu-là de narration visuelle, il y a quelque chose que tu as construit au fur et à mesure où, en fait, tout est venu très spontanément, comme tu le disais, sur ton bureau, etc. Parce que on a toujours envie de se demander, mais est-ce que l'histoire était là avant le dessin? Est-ce que le dessin était là avant l'écriture? Est-ce que les deux ont toujours été faits en même temps? Enfin, ces endroits-là de création, ils sont hyper intéressants.
Bah, je voulais qu'on ait le sentiment d'ouvrir presque un journal intime et qu'il a été fait d'une traite. Du coup, même parfois, je me suis même obligée à pas reprendre des dessins que je trouvais ratés. Mais je me suis dit non, parce que c'est plus juste comme ça. Ça a l'air d'être sorti d'un jet. Dans les faits, j'ai écrit tout le texte avant. J'avais comme un peu un scénario de film, j'avais les dialogues, et j'avais vraiment des petites scènes comme ça en tête. Et j'avais aucune idée de comment j'allais le traduire en image. J'avais juste les dialogues. Et du coup, je me disais, tous les jours, je dois faire une double page, et je ne sais absolument pas à quoi elle va ressembler. Il n'y a pas de storyboard. On m'a toujours dit, il faut faire un storyboard, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et au début, je voulais, et après, je me suis rendu compte que ça allait pas avec mon histoire, en fait. Et même, je voulais me surprendre en le faisant. Et j'aimais bien ce côté... ouais, au début, je pensais que j'allais faire une BD très conventionnelle avec des cases. Les premières... Je pense que ça tient deux pages, ça. Il y a deux pages où j'ai essayé de jouer le jeu, j'ai pris une règle, j'ai fait contour... Ouais, bon, c'est cool. Et après, j'ai vu, oh non, mais c'est bon, laisse tomber. En fait, les cases, ça va 2 minutes, quoi. Et bah, justement, j'aimais bien aussi ce truc assez ironique, parce que comme c'était... normalement, ça devait être une BD sur l'escrime, sur le sport, donc je m'attendais à une BD un peu d'action. Au final, c'est une sorte de récit du quotidien avec des micro-instants, mais je le fais comme si c'était explosif, alors, et des scènes d'action, et ça aussi, je trouve ça un peu drôle. Ouais, c'était un parti pris aussi.
Mais tu dis que ça devait être un récit sportif, mais dans quelle mesure ça devait être ? Tu t'étais mise au défi de faire une BD sur l'escrime ?
Ouais, bah le point de départ, c'était l'escrime. Parce que bah, j'ai fait beaucoup d'escrime, en fait, avant de dessiner, c'est ma première grosse passion. Et d'ailleurs, je pense que je dessine comme je fais de l'escrime. Il y a un rapport au geste, au sabre, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Ça vient de là. Mais du coup, j'avais commencé à faire plein de dessins de scènes d'escrime, et j'avais peur de tomber dans quelque chose de l'ordre de la séduction un peu facile, parce que les scènes d'escrime avec un trait comme ça qui va vite, ça peut être vite très séduisant, mais ça devenait un peu superficiel, c'est juste des beaux dessins, ça raconte rien, quoi, à part que c'est joli, on dirait de la danse. Bon. Et je savais pas trop ce que j'allais en faire. Au début, je voulais du coup quand même raconter un match d'escrime, expliquer qu'est-ce qui va se passer après. Je voulais que Corki, elle perde, qu'elle supporte pas la défaite, du coup qu'elle s'embrouille avec Violette, que c'était le drame. Mais plus j'écrivais, ça ressemblait à un scénario de téléfilm mélodramatique trop nul. Et vraiment, je me disais, mais je vais jamais réussir à faire un scénario. Et c'est de fil en aiguille que j'ai eu... Quelqu'un m'a dit « match ». Et là, ça a fait pop. Parce que du coup, en fait, c'est l'idée du titre qui m'a débloquée. Parce que j'aimais trop ce mot match qui du coup fait penser à la compète sportive, mais matcher c'est aussi le match de Tinder, et en fait matcher apparemment ça veut dire être en correspondance, et à l'idée de complicité justement, et donc j'aimais bien ce double sens, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le match de la compétition sportive qui m'intéressait, mais beaucoup plus le match de le fait qu'elle match entre elles. Et l'avant-match, bah, du coup, parce que c'est la période juste avant. En fait, c'était le match, il apparaît pas dans la BD, presque.
Mais oui, non, on ne sait pas.
Donc au final, ouais, je pensais que ma BD serait terrible. L'histoire de ce match, mais au final, il a disparu le match.
Voilà. Pour autant, on va quand même avoir des petits clins d'œil à l'escrime. Et toute cette scène où elle compare les bras, enfin, où Violette compare les bras de Corki... à ses épées d'escrime, et elle il y a ce petit jeu, et en effet, il y a ces petites tentatives, en fait, de faire sens, parfois, de... Est-ce qu'elle veut vraiment faire sens? On ne le saura jamais, en fait. Je pense que, suivant notre lecture, on peut laisser cette porte ouverte ou la fermer complètement, mais de se dire que elle va à plusieurs reprises, Violette, qui a une imagination quand même géniale, émettre des endroits de coups de foudre, d'applications de dating complètement improbables. Enfin, faut quand même y penser, à la truffe du chien en forme de cœur. C'est tout ce langage-là, toutes ces idées-là, en fait, c'est des choses que tu as dû rechercher, ou c'est toi qui as aussi, en fait, cet univers un peu merveilleux de l'amour, en fait, au final. Entrons dans le sujet. Ah. Es-tu dans un univers merveilleux de l'amour ?
Clairement. Ouais, mais non, mais c'est surtout que... D'ailleurs, ça, au début, je me disais « Ah, je veux trop faire une BD qui parle pas trop de moi, ou qui me ressemble... Enfin, que je m'éloigne un peu de mes personnages. » Mais j'ai pas réussi, parce que forcément, quand j'essaye d'être sincère quand j'écris, ça vient forcément de ce que je connais en général. Et au début, même, c'est drôle, parce que je m'identifiais beaucoup à Corki. Mm-hmm. Et plus j'écrivais l'histoire, plus en fait, j'avais le sentiment d'être Violette, et plus du tout Corki. Et ouais, du coup, c'était assez intéressant de voir comment ça bougeait en cours d'écriture. Et c'était quoi la question par rapport à...
je trouvais qu'il y avait des petits éléments merveilleux. Et voilà, l'invention du chien qui pourrait faire se rencontrer les couples.
Clairement, oui, parce qu'à un moment, j'avais dessiné un chien et sa truffe ressemblait à un cœur. Et je me disais, ah bah peut-être qu'il renifle et son flair, il est capable de détecter les couples s'il a une truffe en forme de cœur. Et je me suis dit, ouais, c'est la nouvelle version de Tinder du futur, en plus dynamique, quoi. Mais non, mais en fait, ça, c'est... Oui, en fait, c'est complètement ma vision de la vie. Quand je marche dans la rue, je m'imagine des trucs comme... Mais tout le monde, non. Enfin, je sais pas. rassurez-moi. Non, clairement, bah oui, là, c'est vraiment ma manière de fonctionner par association d'idées. Et bah, Violette, typiquement, qui a ce côté, elle passe du coq à l'âne en, bah, en associant beaucoup de choses. Je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, même dans ma manière d'écrire. Oui, du coup, là, ça se sent bien.
Mmh. Bah, c'est que ça rebondit et que ça. En plus, il va y avoir des clins d'œil à ces blagues au fur et à mesure. Enfin, voilà, il y a évidemment. Comme tu dis, c'est une relation de complicité et les choses n'ont, enfin, les clins d'œil sont possibles. Il y a des choses comme ça qui reviennent et c'est hyper chouette. Ce qui m'a un peu étonnée après avoir travaillé le livre, relu, j'ai revu en fait l'image de couverture et je me suis dit ben en fait moi je me serais attendue à l'inverse. Est-ce que ce soit Violette qui cache les yeux de Corky? Pourquoi? Pourquoi je m'attendais à ça?
Ah, intéressant. Oui, c'est vrai que, bah, d'une certaine manière, bah, c'est peut-être parce qu'au début, je m'identifiais plus à Corky.
Mm-hmm.
Après, d'une certaine manière, Violette, elle a pas l'air de savoir non plus par rapport à Corky. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle a l'air d'esquiver aussi quand Corky la touche et qu'elle lui dit non, pas maintenant. Et au final, Corky, elle le dit pas. Mais par ses gestes, j'ai l'impression que c'est elle qui va plus chercher Violette, au final.
Mmh.
Et non, moi, c'est vrai que, bah, de mon point de vue, ouais, c'était Violette qui devait avoir les yeux cachés.
Bon, ben moi, je me disais qu'en fait, au final, Violette apportait une autre vision à Corky, qui était quand même assez centrée sur son jeu... sur ses craintes, son anxiété, son entraîneur, elle parle quand même beaucoup, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est parce que justement, il y a ce truc que Violette a une influence sur Corky, elle est là pour un peu la détendre, on va dire, et c'est ça que je trouvais intéressant chez Corky, c'est qu'elle finit par jouer le jeu de Violette, et au point que, par exemple, la scène où à un moment, je sais plus, c'est une des personnages qui écoute le cœur de l'autre, bah, on voit que c'est Violette qui, du coup, est très attentive aux sonorités. Et bah, quelques pages après, c'est Corky qui va entendre quelque chose et dire « Ah ouais, ça me rappelle le son de la sirène des pompiers. » En fait, c'est une manière de dire « Ah bah, elle a fini par adopter son langage à force de la côtoyer. » Et du coup, c'est toujours ce truc de sorte d'influence réciproque. Donc, d'une certaine manière, si, ça peut faire sens dans cette logique. Ouais.
Mais c'est parfait, hein, y a pas de souci. Je l'aime aussi, cette couverture. D'ailleurs, donc là, on a parlé du dessin, de la couverture, et je pense que c'est important, en fait, de nommer Studio Fidèle, qui est donc la maison d'impression qui t'a accompagnée sur ce projet. On sait, ou en tout cas, si on ne le sait pas, c'est quand même une maison qui fait un travail très précis et à chaque fois très unique en fait pour chaque livre. Le chemin jusqu'à cet ouvrage, comment ça s'est passé en fait? T'as envoyé ton manuscrit à Studio Fidèle tout simplement et ils ont fait bingo et c'était parti?
Non, c'est encore plus drôle. Alors, je voulais faire un stage, j'ai envoyé un mail, j'ai oublié de mettre ma pièce jointe et du coup j'ai jamais eu de réponse évidemment. Et je sais pas, 6 mois plus tard, du coup j'ai fait un stage pas chez Fidèle, mais quelques mois plus tard, ouais, je reçois un mail de Fidèle, et il me dit « Ah, j'adore ton travail, ça te dirait d'être édité chez moi ?» Putain, ok. Et à un moment, je le rencontre et je lui dis « Mais tu sais que je t'avais demandé un stage ?» Et il dit « Oh, pardon, je t'avais pas répondu !» Et en fait, ouais, il avait même pas eu accès à mon message, je pense. Et c'est lui qui m'a contactée via les réseaux, il avait dû voir mon travail. Donc non, vraiment, là, c'était la chance absolue, quoi, le rêve.
Mm.
Et donc, ouais, c'est lui qui m'a dit, bah, je te laisse carte blanche. Au début, je pensais faire un recueil de strips. D'ailleurs, ça se ressent parce que c'est un peu, pour moi, la BD, c'est comme un assemblage de plein de petites scènes, comme des strips, justement. Donc, peut-être, ouais. Mais j'ai essayé de les lier entre eux. Normalement, ça devait être des strips distincts. Et voilà, donc il m'a laissé totale liberté, et c'était trop bien, vraiment Fidèle,
c'est top.
Je recommande.
Oui, parce que bon, bah là on est quand même sur du papier, une couverture bien particulière, des couleurs, ça a dû être un chouette travail de faire ça avec Helleux, qui ont quand même un studio d'impression assez fou, enfin tout ce qu'ils et elles font là-bas. Et
ils impriment en rhizographie. Mm-hmm. C'est une technique que j'adore. J'avais fait mon stage chez Quintal qui imprime en rhizographie, donc c'est vraiment ma technique préférée, je pense. Et normalement, d'ailleurs, la BD L'avant-match, elle devait être imprimée en rhizographie. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que comme je mixe tellement les techniques, ça aurait rajouté encore une couche de matière qui aurait été peut-être un peu trop, enfin un peu too much. Du coup, on s'est dit que c'était pas pertinent de le faire en rhizo forcément, donc c'est en offset. Et aussi, ça a permis, en faisant ça, d'avoir une couverture dure, mm-hmm. et qui était un de mes grands rêves, d'ailleurs, c'était dans la BD. Et donc j'étais très contente.
Ça
et
fait si chic.
Bah ouais, enfin en fait, vraiment, je fais toc-toc dessus, quoi.
C'est ça. Rêve, quoi. C'est... Ouf. On va le faire pour eux.
Et j'aime bien, il y a vraiment un travail du côté, comme la BD, il y a ce truc très sensoriel, justement. Mm. Bah la couverture l'est aussi, on peut la toucher, il y a du relief, il y a de la matière, enfin vraiment, un beau travail. Et au début, j'avais peur, parce que mon nom est écrit en énorme. Vraiment, je demande, mais tout le monde va se dire que je suis méga super, enfin super, comment on dit, mégalo. Waouh. Mais après, le graphiste, il expliquait pourquoi, et il y a un truc que je trouve assez provocateur, même, de mettre mon nom en énorme comme ça, surtout vu le genre de récit que c'est. Et après, mon éditeur, il me disait, bah oui, mais en même temps, cette BD, c'est trop toi aussi. Enfin, je...
C'est parfait, on n'a rien à redire, le nom en grand, la police. Bon, par contre, il y a, c'est quoi, c'est Jack Sparrow sur la...
Oui, mais si on Jack en parle. Sparrow, c'est... Oui, je me suis beaucoup posé la question, mais c'était trop tard, c'était déjà envoyé à l'imprimeur, et justement, ah ouais, j'avais même pas pensé, en fait, parce que... Bah ouais, moi j'avais pas trop suivi, je connaissais le procès, là, Johnny Depp, mais après, c'est vraiment que ce poster, il a fait partie de mon adolescence, et c'est Jack Sparrow, hein, c'est le
oui,
personnage. Mais,
mais
je me suis posé la question, mais après, dans les faits, là, il est pas particulièrement mis en valeur, il a une sorte d'acné de regard, et c'était pour moi aussi, cette scène finale d'ailleurs, où elle se colle plein de pastilles en forme d'œil sur le corps, c'était une réponse au male gaze, au regard masculin, où l'ensemble des œuvres sont faites pour des hommes, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, elles vont avoir 100 yeux, et comme ça, elles vont voir encore plus, et donc c'était ma manière de répondre à ça aussi.
Mm-hmm. Voilà. Oui, puis elle l'utilise comme confident, elle le dit.
Oui,
et l'autre moi je lui parle et il a rien à dire.
L'autre elle dit ouais, à ta place je flipperai. Faut... Et d'ailleurs, j'avais écrit un dialogue normalement où l'autre lui disait ouais, tu devrais peut-être pas tout dire à Jack, fais attention. Et à un moment, elle le déchire quand elle se dispute. Et j'avais fait toute une scène où elle plie Jack Sparrow en morceaux et ça devient un avion et elle le balance par la fenêtre. Et enfin, il y avait tout un délire avec Jack Sparrow. Mais...
On le recouvre de plein de petits yeux qui bougent, là, et puis c'est très bien.
Oui, voilà.
C'est très, très bien. Donc, comme je te disais un peu en amont, en fait, quand j'ai lu un peu les critiques que tu avais pu avoir sur la BD, en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes parlaient de ce gap adolescence, âge adulte, ce que, évidemment, j'avais pas vu du tout, parce que pour moi, à 20 ans, c'est plus l'adolescence. Et en même temps, c'est quoi ce petit système de tout découper, là, comme ça? Et en relisant de ce fait après, je relis cette phrase « Tu crois que les adultes se font des câlins entre amis ?» Et donc, il y a plein de petits trucs où je me dis « Ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, si on commence à mettre toutes ces petites choses les unes à côté des autres, on pourrait imaginer qu'elles se sentent pas encore faire partie du monde adulte. » Mais donc, question énorme. Est-ce que vraiment on se rend compte du moment où on arrive dans l'âge adulte? Parce que, ou est-ce que c'est toute la vie où on se dit « Ah, peut-être que ce serait comme ça ».
Ben, c'est la question que je pose à tout le monde quand je suis en soirée ces temps-ci. vraiment, ben, parce que... Non, mais alors, c'était drôle, j'ai présenté cette BD à des lycéens. Et ils m'ont tous dit « Mais elles ont 20 ans, du coup, c'est des adultes ». Et moi, j'étais en mode « Oh là là, mais moi, à 20 ans, mais je me sentais pas du tout adulte. Pour moi, à 20 ans, j'avais 16 ans, quoi. Enfin, c'est l'arrivée en école. J'ai l'impression de retourner même dans l'enfance parce que je connais pas encore les études, donc il y a une sorte de nouveau monde. Et ouais, même à 25 ans, je me sens pas particulièrement adulte. Et je me demande à partir de quand on se sent adulte. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était quand on sait conduire, cuisiner, enfin, très répondre à l'URSSAF, enfin, les trucs comme ça, quoi. Mais maintenant, je me dis, non, ça je sais faire, ben, je suis quand même pas adulte. Et du coup, ouais, je pense que c'est... Peut-être qu'on n'est jamais adulte, parce que j'ai demandé à tous les gens que je pense qu'ils sont adultes, et ils m'ont tous dit non, plus tard. Et après, peut-être, je pense qu'il y a quand même ce truc de quand on commence à avoir des enfants. C'est peut-être... Là, je n'ai pas encore expérimenté ça, donc peut-être que c'est ça. Mais j'en sais rien.
Mais tout ce questionnement-là, ce qui, moi, me semblait d'autant plus intéressant, c'était de lire qu'en fait, comme si ces endroits de trouble, d'être incertaine, de pas oser, de faire un pas en avant, trois pas en arrière, ou l'inverse, ça aurait été comme ça complètement un petit luxe en fait de cette période où les choses seraient pas encore définitives, où au final on a le droit en fait de douter, que ça, sauf que peut-être que ce que ça nous apprend en fait dans ton livre, c'est que ces petits endroits là, ces après-midi qui filent et qui filent, mais ben, en fait on devrait pouvoir se les autoriser même quand on a plus de 20 ans, plus de n'importe quel âge, en fait.
Mais je me pose vraiment la question, je demandais à ma mère, mais est-ce que tu fais des câlins à tes amis? C'est vraiment une question qui me travaille, parce que, bah, moi j'ai fait une école d'art. Et c'est vrai qu'en école d'art, je pense qu'il y a un peu ce truc de, on a un peu le syndrome de Peter Pan, je pense, en école d'art. On a tous des jouets dans nos chambres, donc il y a peut-être c'est aussi mon cercle social qui me donne l'impression de, enfin, qu'à 20 ans, j'étais encore toute jeune. Mais c'est vrai que, ouais, c'est plutôt ce truc de aussi, je voyais en soirée, on est tous avachis les uns sur les autres, on joue, et je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a un âge où soudainement ça s'arrête, le fait de même de pouvoir avoir des amitiés ambiguës d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vachement associé à la jeunesse, mais est-ce que, ouais, on peut continuer d'avoir ces relations-là comme ça un peu floues quand on grandit, mais j'ai l'impression que c'est aussi, ouais, le système qui fait que plus on grandit, plus il y a ce truc de faire un travail, cadré, être en couple, ou je sais pas quoi, dans une case. Et c'est peut-être ça qui, ouais, c'est peut-être ça, le fait d'être adulte, c'est le fait d'être dans une case bien rangée. Mais je sais pas.
Alors, je décrète que tes personnages sont adultes. Okay. Comme ça, nous avons un précédent. Nous avons une histoire d'adulte qui se câline et qui se trouble, et peut-être que de ce fait...
C'est les nouveaux adultes, en fait.
Ce sont les nouveaux adultes, ces adultes. Alors, je sais pas à combien on est, 3.0, peut-être, je sais plus comment on est dans le système. Mais en tout cas, 2024, voilà. Et parce que, voilà, toute l'idée du festival d'amour, c'est ça aussi, c'est de se dire, parce qu'on a beau penser nos révolutions amoureuses, amicales, etc., en fait, si on les lit pas dans la fiction, dans l'autofiction, dans les films, si en fait on n'a pas d'exemple de ce que ça donne en fait en réalité, ben ça va rester de la belle théorie. Mais il est temps en fait qu'on ait des exemples. Et là, typiquement, ben on a trop envie de passer un après-midi comme ça à dériver. Ouais. C'est un peu ça. On se laissera aller comme ça. C'est ce que tu nous souhaites.
Bah, c'est ce que je souhaite, de se faire des câlins comme ça avec tous ses potes. Oui, c'est important.
Papouilland. Alors, tu es la première pour ce festival, et donc tu vas avoir l'immense chance et honneur d'inaugurer un jeu que nous avons mis en place qui s'appelle les cubes d'amour. Il me faudrait des... Donc, fait par nos petites mains et nos petits cerveaux, avec Lucie, ma collègue. Et donc, je t'invite à faire une poésie d'amour. Parce que c'est comme ça que ça se passe au
festival
d'amour.
Comme ça que je devrais faire mes scénarios de BD même, peut-être.
Bah, peut-être. Donc, fais comme tu peux, comme tu veux. Normalement, ça peut tenir dans tous tes doigts. Tu peux les prendre comme ça.
Tous ensemble?
Ouais, moi, c'est ma technique.
Ok.
Et puis...
Très ambitieux comme jeu.
Et là, je la dextérité, tu sais.
En plus, ma BD devait s'appeler le dé au départ. Et je vous comptais faire un truc à plein de facettes. Bon, ouais. C'est très méta ce qui se passe.
Notre rencontre, ça prend des dimensions certaines.
Ouais, hein, c'est clair.
Ok.
Et donc c'est moi qui choisis.
Ah bah oui, là c'est ta poésie. Hein.
Ah, là, j'observe les mots. Mais... C'est pas bête, hein. Ah, en fait, c'est en deux vers. Alors, c'est durement l'expression explose sous la joie, entoure le sol des mains.
Voilà. Et ben, celle-là, franchement, oui.
Entoure le sol des mains, c'est beau.
Ouais, c'est ça, entoure le sol des mains. Donc, durement l'expression explose sous la joie, entoure le sol des mains. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
En plus, par rapport à l'expression explose sous la joie.
Je vais faire tous mes scénarios comme ça. C'est toutes mes répliques, ça va être super.
Si on peut mettre un petit
crédit,
vise la franchise.
Clairement.
ce serait plutôt parfait. Et bien, merci beaucoup, Noémie, pour ce super moment.
Ben, merci à la franchise, hein. Je suis trop contente d'être là. C'est toujours un peu intimidant, en vrai, hein, de parler devant tout le monde. Surtout quand on fait de la BD, normalement, on est tout seul derrière son bureau et on parle à personne. Donc,
Merci beaucoup.
Alors, heureuse, le festival d'amour. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie de Noémie Schust à l'occasion de la publication de sa bande dessinée L'Avant-Match chez Studio Fidèle. Le festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.